Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55. Très heureuse de vous retrouver et très heureuse de retrouver toute l'équipe de C'est à vous. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Après les retraites, le mondial au Qatar, les violences conjugales, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Le débat autour des droits de succession est de retour à l'Assemblée nationale et il divise au sein même de la majorité.
Les successions, l'héritage, ça concerne aussi les grandes familles françaises. Succession, l'argent, le sang et les larmes, c'est signé des deux grands reporters du Monde, Raphaël Baquet et Vanessa Stenner. C'est passionnant, l'univers impitoyable de ces grandes familles. Elles seront dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Je vous raconte ce soir l'histoire de Amine Kessassi, le combat d'Amine Kessassi. Il a 18 ans, il a perdu son frère dans un règlement de compte à Marseille. Il a créé une association pour permettre aux jeunes de sortir des trafics de drogue.
Patrick, votre édito.
L'Arménie, de nouveau agressée par son voisin, l'Azerbaïdjan, qui craint de nouveau pour sa survie et dans l'indifférence générale.
Ouais, c'est l'autre guerre dont on ne parle pas à 4 heures de Paris. Mathieu, dans le 5 sur 5.
La guerre en Ukraine, les Ukrainiens qui regagnent petit à petit du terrain et des Russes qui semblent accuser le coup.
Ça, c'est dans le 5 sur 5 de Mathieu. Et puis Pierre, dans l'œil ce soir.
Tori et Lokita, un tout jeune Béninois et une jeune Camerounaise que des passeurs ont conduit jusqu'à Liège. Comment survivre au milieu des trafiquants et des profiteurs? C'est le nouveau film des Frères Dardenne. Je vous le présente tout à l'heure.
Et puis nos invités après 20h, Stéphane Bern, alors qui a une actualité mais par-dessus la tête. Ses deux livres, une série bientôt sur France 3, sa mission patrimoine, on lui consacrera du temps. Et puis il sera question aussi d'héritage après 20h, puisque Philippe Bouvard est notre invité, il considère Stéphane Bern comme son héritier, son fils spirituel. Voilà, on tient une ligne du début à la fin de l'émission. C'est dingue.
La cohérence, c'est dingue.
Tant de cohérence, c'est bluffant.
C'est le vertige.
Oui, ça donne le vertige. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Une autre guerre, Patrick, à 4 heures de Paris.
Oui, pendant que le monde entier a les yeux braqués sur l'Ukraine, une autre démocratie, petit pays de 3 millions d'habitants, voit son territoire attaqué avec le sentiment que son existence est à nouveau menacée. C'est donc l'Arménie qui vient de subir une offensive meurtrière de l'Azerbaïdjan.
Les deux pays se disputent depuis 30 ans la région du Haut-Karabakh.
Enclave arménienne rattachée à l'Azerbaïdjan. Il y a 2 ans, la guerre du Karabakh s'était soldée par une défaite douloureuse pour l'Arménie. 4000 morts et la reprise par l'Azerbaïdjan d'une partie de ce territoire ancestral. Mais là, il ne s'agit pas du Karabakh, c'est bien le territoire souverain de l'Arménie qui a été attaqué dans le sud du pays sur plusieurs kilomètres. L'offensive lancée le 13 septembre a fait plus de 200 morts côté arménien et entraîné l'évacuation de plusieurs villages, 7600 habitants déplacés.
Pour les Arméniens, cette guerre a un visage.
Celui de cette femme, Anouche Apetian, soldate de l'armée arménienne, capturée près de Jermouk par les Azéris et torturée à mort, suppliciée, découpée en morceaux dans des conditions que je ne peux pas décrire à cette heure-ci à la télévision. C'est absolument révulsant. Ces tortionnaires azéris ont filmé leurs sévices avant de faire circuler la vidéo. Et le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, a évoqué cela il y a 10 jours à la tribune de l'Assemblée de l'ONU.
Les dead bodies of Armenian female military personnel were mutilated and then proudly video recorded with particular cruelty by the Azerbaijani servicemen.
D'autres vidéos ont depuis circulé, d'autres preuves de crimes de guerre, cadavres mutilés, prisonniers exécutés. C'est une vidéo qui a surgi dimanche. Atrocité insoutenable.
Des exactions qui ont fait réagir la communauté internationale?
Ben, pas tant que ça. Ce qui hérisse la diaspora arménienne, ce sont tous ces communiqués diplomatiques qui condamnent les affrontements, y compris le pape François qui a fait un communiqué dans ce sens, qui semble renvoyer dos à dos les belligérants sans distinguer l'agresseur de la l'agresser. Il y a 10 jours, l'acteur et metteur en scène Simon Abkarian a poussé un cri de colère dans les colonnes de l'Humanité. Qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète plus d'un peuple que d'un autre? Notre sang n'est-il pas aussi rouge que celui des Ukrainiens? Et poursuivant la comparaison, il y aurait donc pour l'Europe un gaz devenu intolérable, le gaz russe, et un gaz noble, celui qui va chauffer nos prochains hivers, le gaz azéri. Oui, parce que l'Azerbaïdjan est riche de pétrole et de gaz, et que la Commission européenne, avec Ursula von der Leyen, a signé en juillet un accord pour accroître les importations de gaz azéri.
L'Arménie n'a pas ses atouts.
Non, elle n'a ni gaz ni pétrole, aucune ressource naturelle, ni débouché sur la mer. Elle est coincée entre deux régimes autoritaires et hostiles, pour ne pas dire des dictatures, la Turquie et son allié l'Azerbaïdjan. La Turquie d'Erdogan, qui a le vieux projet de relier dans la continuité tous les territoires de langue et de culture turque, de l'Asie centrale au Bosphore, d'où le grignotage de ce petit bout de terre chrétienne qui fait obstacle, qui fait verrou à ce rêve pan-turc. Aujourd'hui, les Arméniens ne parlent que de ça, des prémices d'une possible invasion à grande échelle de la partie sud de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Le malheur pour l'Arménie, c'est qu'elle avait un protecteur, la Russie. Les deux pays sont liés par une alliance militaire, mais aujourd'hui, Moscou ne répond plus. Moscou a d'autres chats ukrainiens à fouetter, si je puis dire. L'Arménie est en quête d'alliés pour contenir l'expansionnisme turc. Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre Pachinian la semaine dernière. 10 jours plus tôt, l'Américaine Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, la présidente américaine, s'était rendue à Yerevan. Depuis, Azéris et Arméniens discutent. Un traité de paix a été évoqué dimanche à Genève, mais 50 km2 du territoire arménien sont toujours occupés dans une indifférence à peu près complète. Seule la France et les États-Unis sont les puissances qui ont haussé le ton. Comme l'a écrit Valérie Toragnan dans le dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, les Arméniens n'ont jamais manqué d'amis qui pleurent chaudement sur leur sort, et ils ont toujours manqué d'alliés prêts à les soutenir concrètement.
Et on renvoie donc au coup de colère de l'acteur Simon Abkarian. C'était dans l'Humanité.
C'était dans l'Humanité, mais c'est disponible, on peut le lire sur les réseaux sociaux gratuitement. Oui, c'est un coup de sang, si on peut dire, assez vigoureux.
Merci beaucoup Patrick pour cet édito. Ce matin, les fournisseurs d'énergie, gaz, électricité étaient convoqués à Bercy par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Face à des prix qui explosent, certains artisans ou chefs d'entreprise craignent de devoir tout simplement fermer boutique.
Ce qui consomme le plus, c'est nos chambres froides, en fait. Et ça c'est incompressible. On est obligé de garder les températures.
En 2021, on payait 9 centimes les heures pleines d'hiver. Et on nous indique qu'en 2022, on sera minimum 132 centimes. Si on ne nous aide pas, on va travailler à perte ou alors on va fermer.
Sur la vitrine, un avis de décès pour signifier la fermeture de la boutique. À l'intérieur, les larmes des clients.
Je l'ai regretté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On va plus trouver de bon pain nulle part.
On ne veut pas impacter les clients en augmentant les prix. Nous, en ayant des dettes, donc on a pris la sage décision très dure, mais on l'a prise d'arrêter.
Bonsoir Eric Heyer.
Bonsoir.
Économiste et directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. À vos côtés, Frédéric Ferriot, directrice générale des services de régulation, des services du médiateur national de l'énergie. Merci de votre présence à tous les deux. Frédéric Ferriot, les entreprises, elles ont raison de s'inquiéter au moment de renouveler leur contrat en fourniture d'énergie?
Oui, elles ont raison parce qu'elles sont en difficulté. Lorsque leur contrat arrive à échéance, en fait, il y en a beaucoup qui se retrouvent sans contrat. Les fournisseurs ne leur proposent pas de contrat ou alors avec des prix qui sont exorbitants, qui sont liés aux conditions du marché actuellement.
C'est-à-dire qu'on en est à ne même plus leur proposer de contrat.
Oui,
à ne plus leur fournir d'énergie.
Certains, effectivement, on a certaines entreprises qui contactent les services du médiateur national de l'énergie parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de propositions ou alors à des conditions telles qu'elles nous disent « moi, je mets la clé sous la porte parce que je ne peux pas m'acquitter de factures qui vont être 10 fois plus chères que celles que je payais auparavant ».
Les verriers Duralex ou encore le fondeur Aluminium Dunkerque ont déjà annoncé devoir réduire leurs activités à cause des prix d'énergie. Roland Lescure, le ministre chargé de l'Industrie, a indiqué que 300 entreprises pourraient se retrouver en difficulté d'ici la fin de l'année. Mais il faut s'attendre à beaucoup plus.
Alors on peut effectivement s'attendre à beaucoup plus, c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, vous voyez, il y a le problème de l'énergie, c'est à la fois le prix et la quantité. Donc là, pour l'instant, on a la quantité, on peut, enfin, il y a certaines qui ont des difficultés, mais globalement, on peut encore faire face, on a les quantités, mais avec des prix très élevés. Mais demain, il peut y avoir à la fois un problème de prix et de quantité, et donc il va falloir sans doute pallier les deux. Et donc les entreprises aujourd'hui se disent à ce niveau-là, puisque j'ai quand même des stocks qui sont pleins, pour les entreprises que vous avez précitées, en fait, elles ont des stocks pleins. Donc elles disent, je peux encore fournir à mes clients sans produire, et donc je préfère fermer et attendre 6 mois, 9 mois, et réouvrir en attendant, j'utilise mes stocks. Et donc, dans 6 mois, les prix seront plus bas. Et là, ça va repartir parce que je vais devoir reproduire à la fois pour satisfaire ma demande. Et en plus, il faudra que je reconstitue mes stocks. Et donc, c'est un mauvais moment. Alors, donc ça, ça marche que si vous avez des stocks et que vraiment la crise ne dure que 6 mois, ce qui est pas assuré.
Ouais. Ce matin, le ministre de l'économie a donc convoqué à Bercy les fournisseurs d'énergie et il a annoncé un certain nombre de mesures concrètes pour aider les entreprises.
Le patron de PME, et a fortiori le patron d'une très petite entreprise, il ne pense pas tous les jours à sa facture d'électricité. Il la voit arriver au dernier moment, il la découvre et il se dit « mais je ne vais pas pouvoir faire face à cette charge insupportable ». Donc il faut qu'il y ait des délais. 2 mois avant le renouvellement de son contrat, la PME, la TPE, l'entreprise sera prévenue. Cela lui permettra d'assumer la charge, de faire des comparaisons, d'ouvrir aussi la compétition avec d'autres fournisseurs d'énergie et de se retourner le cas échéant.
Frédéric Ferriot, ça suffira d'être prévenu à l'avance ?
Ça va dépendre des prix en fait, qu'on va proposer à ces entreprises. Alors, ça permet effectivement d'anticiper, mais ce n'est pas suffisant.
Surtout que le bouclier tarifaire, il existe bien, mais il ne concerne que les petites entreprises et celles qui consomment le plus, mais la plupart ne sont pas protégées. Il y a un trou dans la raquette.
En fait, ça concerne effectivement les plus petites entreprises, les micro-entreprises, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais uniquement celles qui sont éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité, donc qui ont une puissance de moins de 36 kVA. Et donc, effectivement, sont hors scope un certain nombre de petites entreprises. Par exemple, on entend parler en ce moment beaucoup des boulangers qui ont besoin de beaucoup de puissance pour faire fonctionner leurs appareils électriques. Ouais. Ces professions-là, elles ne sont pas couvertes par le bouclier.
Est-ce que l'État pourrait les aider directement, Éric Heyer ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, aider les ménages, c'est beaucoup plus facile qu'aider les entreprises parce qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence. Vous voyez, en Europe, puisqu'on a fait un marché unique, on a la même monnaie, on s'est dit, on ne va pas essayer de se faire la compétition entre nous. Et donc, si vous commencez à faire des aides sur les entreprises, alors d'un secteur ou même général, les autres peuvent dire, là, c'est une distorsion de concurrence. Et là, on voit bien, alors, on en fait, hein, sans le dire, depuis, il y a plein d'aides un peu déguisées, mais aujourd'hui, c'est tellement sensible que, vous voyez, là, l'Allemagne vient de mettre 200 milliards sur la table. Quasiment tous les pays européens ont dit, mais non, là, il va y avoir distorsion de concurrence, parce qu'avec cette somme-là, vous allez couvrir le coût pour les entreprises allemandes, mais pas nous, et donc, du coup, il y aura des gains de compétitivité en faveur de l'Allemagne. Donc, c'est toujours plus compliqué pour les entreprises, mais il va bien falloir qu'on ait une résolution au niveau européen, pour que justement, il n'y ait pas ce problème de distorsion.
C'est exactement ce que réclame la Confédération des petites et moyennes entreprises, un prix plafonné au niveau européen. On écoute son secrétaire général, le micro de Camille Schmitt et Audrey Payas.
Les augmentations, elles varient. Dans certains cas, c'est multiplié par 5, dans d'autres cas, multiplié par 10, multiplié par 15. On a même vu des propositions de multiplication par 20. En général, ça bouffe, entre guillemets, l'ensemble des résultats que fait l'entreprise. Donc, elle se retrouve dans le rouge quand elle était dans le vert. Et puis, dans certains cas, elle est tout simplement dans l'incapacité de payer cette facture. Donc, à ce moment-là, beaucoup d'entreprises, si rien n'est fait, n'auront d'autre choix que de s'arrêter tout simplement. Donc, il faut à tout prix que pour les entreprises, on arrive au niveau européen à plafonner le prix d'énergie.
Est-ce que c'est possible ? Et si ce n'est pas possible, est-ce qu'on doit craindre une vague de licenciements et donc une flambée du chômage, en tout cas une augmentation du chômage ?
Alors, est-ce que c'est possible ? Oui, on peut le faire, mais tout le monde n'est pas d'accord. Vous voyez, parce qu'il y a les deux problèmes que j'ai précités, c'est-à-dire qu'il y a un problème de prix, un problème de quantité. Si vous commencez à mettre un prix aux importations d'électricité, il est possible que la Norvège, l'Azerbaïdjan, dise à ce prix-là, moi, je ne vous fournis pas. Et donc, c'est un problème de quantité. Et là, vous voyez, quand vous êtes allemand, vous dites, ah non, mais moi, ça, c'est le drame. Si je n'ai pas assez d'énergie, là, c'est mon industrie qui va être à plat. Donc, je préfère payer cher, et c'est pas grave, je compense. Et je mets 200 milliards sur la table pour compenser mes entreprises. Et donc, c'est là où la distorsion arrive. Et puisqu'on n'arrive pas, tant qu'il y a un pays qui est contre, bah, on n'arrivera pas à le faire. Et donc, sur le gaz, les Allemands, les Néerlandais, j'en oublie, disent non. Alors, ils commencent à être minoritaires, mais ouais, c'est gros, l'Allemagne. Et donc, tant que l'Allemagne dit non, ça va être très compliqué de mettre finalement un blocage des prix.
Et donc, une vague de licenciement, du chômage ?
Donc, c'est possible. Alors, vous voyez, avant le licenciement, il y a l'activité partielle. C'est-à-dire que globalement, vous pouvez toujours dire ce n'est que temporaire, donc j'utilise le dispositif. Vous voyez, c'était ça la crise Covid. Ça nous a rappelé qu'on pouvait utiliser ce type de dispositif. Donc, on garde la main-d'œuvre tout de même. Alors, c'est moins généreux aujourd'hui que ça a été pendant la Covid. C'est-à-dire qu'il y aura un coût pour les entreprises. Et donc là, c'est vraiment une question de timing. Si ça dure 3-6 mois, il est possible qu'effectivement, on puisse mettre en chômage partiel, que les entreprises puissent le faire. Au-delà, je pense que soit l'État recommence à ouvrir les vannes, mais budgétairement, ça va coûter cher, de l'activité partielle, en disant on prend ça à notre compte. Sinon, oui, il y aura des licenciements à attendre.
Et pour les particuliers, comment faire baisser leurs factures ? En changeant de fournisseur, mais encore faut-il y comprendre quelque chose parce que c'est la jungle.
Oui, c'est compliqué. Alors les particuliers, eux, ils sont protégés par le bouclier tarifaire. Les tarifs réglementés de vente d'électricité, leur hausse a été bloquée à 4% en février dernier. En gaz, ils sont gelés depuis un an maintenant. Donc en fait, tous les particuliers qui ont un contrat au tarif réglementé sont protégés. Et pour ceux qui n'ont pas de contrat au tarif réglementé, ils peuvent avoir des contrats dont les prix sont indexés sur les tarifs réglementés, c'est-à-dire que les prix évoluent de la même façon que les tarifs réglementés. Ils peuvent avoir aussi des contrats à prix fixe avec des prix bloqués qui peuvent être moins chers que les tarifs réglementés. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est comparer. Vous pouvez utiliser le comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie sur energie-info.fr. On est une institution publique, donc on a rien à vendre. C'est complètement indépendant. Voilà, pour trouver l'offre la mieux adaptée. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment abandonner en ce moment, ce sont les offres dont les prix sont indexés sur les prix des marchés de gros, qui sont volatiles, c'est ceux-là dont on entend parler, qui flambent, qui sont...
Ça, c'est écrit sur le contrat.
C'est écrit sur le contrat, mais les consommateurs, comme vous le disiez, n'y comprennent rien. Entre un contrat indexé sur les tarifs réglementés, sur les prix de marché, c'est compliqué, donc il faut bien lire le contrat.
Ou ils sont en train de fermer boutique là ?
Pour l'instant, ils existent encore et on a encore des offres qui sont indexées sur les prix de marché, et donc c'est des offres avec des prix qui explosent, et comme les consommateurs en fait ne s'en aperçoivent pas, ils ne s'aperçoivent pas que ça a changé, ils ont la surprise en recevant leur facture annuelle. Et donc, on a des consommateurs sollicitent, qui nous disent, ma facture a été multipliée par 3, par 4, par 5, et pourtant, je n'ai pas consommé plus que l'année dernière. C'est ça l'explication. Donc, il faut
être très vigilant à changer. Et consulter energie-info.fr.
Pour ça, entre autres, qu'on leur demande la sobriété, qu'on leur demande de respecter le chauffage à 19 degrés cet hiver. Et aujourd'hui, il y a eu cette annonce Enedis qui dit qu'il pourra couper les ballons d'eau chaude à distance grâce au compteur Linky entre midi et 2 pour éviter aussi les pics de consommation.
On ne pilote pas le ballon d'eau chaude, on envoie un signal sur un contacteur qui est fait pour, qui a été installé avec l'accord du client dans son installation pour déclencher l'utilisation du signal heure creuse. On ne fait rien d'autre.
Le chauffe-eau électrique marche sur les heures creuses de la nuit, donc il réchauffe l'eau pour la journée. Cette coupure de l'enclenchement du chauffe-eau entre midi et 14 heures, sauf cas particulier, n'aura pas vraiment de conséquences.
Oui, donc on précise, l'eau des ballons d'eau chaude ne sera plus chauffée entre midi et 14 heures, mais les consommateurs auront toujours de l'eau chaude. Mais c'est ce contrôle à distance quand même de votre énergie qui peut inquieter.
Inquiéter pourquoi finalement le ballon d'eau chaude, il est déjà contrôlé à distance, puisque finalement quand il se déclenche habituellement pendant les heures creuses, c'est avec ce signal. Donc là on supprime le signal pendant les heures creuses méridiennes pour limiter la consommation, parce que c'est extrêmement important. Il y a une pointe de consommation en fait.
Entre midi et deux.
Voilà, il y a une pointe
c'est
de consommation.
C'est une heure de pointe.
En fait, c'est une pointe de consommation, mais il y a des heures creuses moins chères qui sont planifiées pendant cette période-là. Et donc c'est là, si on consomme trop et que l'approvisionnement est tendu, c'est là qu'on peut risquer des coupures d'électricité. Donc c'est tout l'intérêt de cette mesure.
Donc c'est une bonne mesure, Eric Lien.
Oui, c'est une mesure. Il va falloir faire la sobriété. C'est pour ça que le prix doit être quand même un peu plus élevé. C'est normal. Et c'est bien que le bouclier tarifaire passe de 4 à 15, même si globalement, ça va nous coûter plus cher. Mais ça va nous envoyer un signal. Attention, ça coûte cher. Donc, ça va nous inciter à consommer moins. Donc, ça, c'est la première idée. Et après, il faut aussi utiliser les nouvelles technologies pour nous dire, là, est-ce que tu peux consommer différemment ? Et si c'est indolore, il ne faut pas s'en priver. Mmh.
Demain, le gouvernement détaillera officiellement son plan de sobriété énergétique. L'État va donner l'exemple, mais il compte aussi sur les entreprises et sur les citoyens pour faire des gestes. Le Parisien dévoile quelques pistes qu'on pourrait apprendre demain. Eau chaude coupée dans les administrations, bonus pour les covoitureurs ou éclairage réduit dans les stades, par exemple. C'est le retour à l'ancienne chasse au gaspillage. Vous pensez que la sobriété choisie va devenir durable et quasi inscrite dans nos vies ?
Oui, c'est un peu comme la Covid. Dans un premier temps, on nous incitait à des gestes barrières, et puis après, on nous les a imposés. Voilà. Je pense que ça va être un peu la même chose. Vous voyez, ce que nous disent RTE et EDF, c'est que globalement, on pourrait avoir suffisamment de quantité pour passer l'hiver avec les stocks si, dans certains cas de figure, si on fait 5% d'économie. Et 15 s'il y a un hiver qui est froid. Bon, ben, peut-être que si l'hiver est froid et qu'on n'a pas fait, on va nous obliger à le faire. Bon, ben, vous voyez, ça va être que transitoire. Hein. On espère que ça soit que transitoire.
Enfin, ça va être transitoire, mais moi, je pense que ça peut aussi rentrer dans les habitudes. Hein. C'est des choses qu'on fait aujourd'hui un peu dans l'urgence parce qu'on est confronté à ces risques de pénurie et sous la contrainte. Maintenant, ça permet aussi d'économiser de l'énergie au moment où elle est la plus chère et où elle est produite par des systèmes de production qui sont carbonés. Je me dis que peut-être les Français ou les consommateurs vont continuer à avoir ce réflexe à l'avenir, ils vont se rendre compte qu'il y a des petits gestes au quotidien qui sont, comme vous le disiez, indolores et qui sont pas juste bons pour le portefeuille mais aussi pour la planète.
Energie-info.fr, c'est le site avec plein d'informations pour les consommateurs. C'est celui de la médiation de l'énergie dont vous dirigez les services généraux. Merci Frédéric Ferriot d'être
Merci.
Venu sur le plateau. C'est à vous. Merci Eric Ayer, directeur de l'OFCE, directeur du département analyse et prévention à l'OFCE. Ah oui, dont j'ai déjà oublié l'Office français.
L'Observatoire français.
Merci beaucoup. J'y arriverai un jour. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est à vous. Émilie, le retour des droits de succession dans l'actualité. Un amendement pour les alléger divise au sein même de la majorité.
Les sujets explosifs ne manquaient pourtant pas en cette rentrée. Eh bien, en voilà un autre. Lancé par Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, a déposé un amendement que personne n'attendait pour alléger les droits de succession. Chose qu'elle a fait non pas en son nom, mais au nom du groupe. Or, au sein de la majorité, le sujet divise. Il est même explosif. Pas qu'au sein de la majorité d'ailleurs. L'héritage, c'est le sujet tabou en France, que ce soit au sein d'une même famille, au sein de la société tout entière. D'ailleurs, à droite, on n'était pas très à l'aise aujourd'hui pour assumer une telle mesure maintenant.
J'y suis favorable, j'ai voté pour.
Mais c'est pas le
moment. Je pense que le moment n'est pas choisi aujourd'hui. Je le dirais à Aurore Berger, c'est pas le moment aujourd'hui de dire on va faire un cadeau à ceux qui sont plus aisés, qui peuvent laisser des patrimoines, plutôt que demander aux Français de payer plus cher leur panier quotidien.
Moi, je suis favorable à ce qu'on mette sur la table la question des droits de succession, pour les alourdir, pour taxer davantage la transmission de patrimoine, dont on sait que 50% du patrimoine français est détenu par 10% de la population. Ce serait une vraie mesure de justice sociale pour financer le programme présidentiel en termes d'éducation, de santé, de transition écologique. C'est l'inverse que veut faire Mme Berger. C'est-à-dire, encore, donner un cadeau aux plus riches.
Alors pour se justifier, Aurore Berger dit vouloir inscrire dans la loi une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ce qui est vrai, même si en réalité celle qui avait osé mettre ce sujet hautement sensible sur la table la première, c'est Valérie Pécresse, alors candidate à la présidentielle côté droite.
Les successions, moi je veux que 95% des Français soient exonérés de droits de succession pour qu'ils puissent transmettre le fruit du travail de toute une vie qui a été tellement imposé. Vous savez, on est champion du monde des impôts.
Proposition choc qui avait donné un coup de boost à sa campagne et poussé le président candidat Emmanuel Macron à changer d'avis. Lui qui disait encore en 2018, on n'y touchera pas tant que je serai là, jusqu'à ce fameux jour de 2022.
Les droits de succession seront modifiés pour prendre en compte l'évolution des prix de l'immobilier en ligne directe en passant de 100 à 150 000 l'abattement, mais surtout en tenant en compte la transformation des familles, des usages, des pratiques, et en créant un abattement pour ligne indirecte, pour les neveux, nièces, petits-enfants et enfants de conjoints.
Alors officieusement, c'était pour suivre les prix de l'immobilier, mais officieusement, on l'aura tous deviné que c'était pour gagner des voix à droite.
Bonsoir Raphaël Baquet, Vanessa Schneider.
Bonsoir.
Grand reporter au Monde quotidien dans lequel vous avez signé ensemble cet été une série sur les grandes fortunes françaises, l'Empire Bolloré, Lagardère, Arnault, LVMH, Sédou et Pathé ou encore L'Oréal et Bettencourt. Série qui devient un livre, Succession, l'argent, le sang et les larmes. On est ravis d'en parler aujourd'hui avec vous. On a vu à quel point l'héritage, les droits de succession sont autant vraiment des sujets très tabous dans le débat politique. Et ça intéresse particulièrement les grandes familles là, que vous évoquez dans ce livre.
Ah oui, ils sont très, très à l'affût de tout changement de législation. Ces grandes fortunes, ben, ils ont une armada d'avocats, de fiscalistes, de conseillers fiscaux qui observent tout à la lettre, puisque ben, leur but, c'est de gagner beaucoup d'argent, oui, de ça. Transmettre leur argent, mais de le transmettre en payant, évidemment, le moins d'impôts possible.
Donc il y a un lobbying, carrément ?
Alors, il peut avoir une forme de lobbying. Par exemple, Bernard Arnault, aucun président de la République n'a... reçu la visite de Bernard Arnault à peine élu. C'est un des premiers sujets qu'il veut aborder, depuis Chirac jusqu'à Emmanuel Macron, pour expliquer que non, on taxe trop, qu'il faut faire comme ci, comme ça, et pas comme ceci, comme cela. Donc oui, évidemment, il y a des pressions. Ils utilisent tous les mécanismes de transmission que favorise la loi, et en particulier les donations du vivant, qui permettent aux héritiers d'avoir l'entreprise, pas la gouvernance, mais l'entreprise sans quasiment de fiscalité. Pour vous donner juste un chiffre qui va éclairer peut-être les téléspectateurs, la nue propriété, elle se transmet, chacun essaie de le faire de son vivant, hein, elle se transmet par tranche pour exonérer au maximum de l'imposition. Et on sait que par exemple en 2017, à Noël, Bernard Arnault a donné à ses 5 enfants, à chacun, 73 millions d'euros. Ça fait un joli cadeau sous le sapin. Et ça s'est reproduit tous les ans, puisque c'est par tranche.
Voilà, joyeux Noël chez lui. Si la question de l'héritage et de la succession obsède les patrons de ces entreprises, c'est qu'il y a un adage que vous rappelez. La première génération crée, la seconde gère, la troisième tue. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de faire mentir cette prophétie. Et le principal danger, c'est pas l'État, c'est pas la conjoncture économique, c'est le clan lui-même.
Oui, ce qui nous a frappé, en fait, c'est que dans ces successions, c'est pas vraiment une affaire d'argent. C'est une affaire avant tout de sentiments. Hein.
À vrai dire, comme ressentiment.
Comme dans toutes les familles, voilà. Il y a des frères bannis, il y a des enfants préférés, il y a des jalousies terribles, hein. Il y a des rivalités très cruelles. Et ça, ça a des conséquences. Bon, dans toutes les familles, ça peut en avoir, bien sûr, mais là, ça a une conséquence cruciale puisque ça peut mettre en danger un groupe industriel. Et donc, c'est ça qu'on a voulu raconter. C'est à la fois entre le grand capitalisme français et les secrets de famille.
Ce qu'a bien compris Vincent Bolloré, à la tête du groupe du même nom, un groupe coté en bourse, est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré.
On a, depuis 188 ans, traversé trois guerres, hein, 70, 14, 40, une grande crise économique, des disputes familiales, mais on est toujours là. Alors si on est toujours là, d'abord c'est parce que nous avons gardé le capital de la famille entre les mains, le capital de l'entreprise entre les mains de la famille, ce qui nous a permis quand même, au lieu de verser des dividendes, d'utiliser l'essentiel de notre argent pour aller dans des nouveaux produits.
Aujourd'hui, Vincent Bolloré, officiellement, n'a plus de rôle opérationnel. Ses 4 enfants sont salariés du groupe, mais c'est toujours lui le boss.
Ah oui, il n'a pas lâché l'affaire.
Il ne lâchera pas, ouais.
En tout cas, pas pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on plonge dans l'histoire familiale, effectivement, il le dit, d'ailleurs, son obsession, c'est de ne pas perdre le capital et évidemment, la menace ce qui menace chaque famille, c'est les divisions. C'est à quel point il a réorienté la stratégie du groupe pour y ramener ses enfants, avec lesquels il avait eu un conflit. Mais ça, on le sait moins, et c'est ce que nous racontons. Au moment de son divorce, il se trouve qu'il est parti avec sa belle-sœur, et donc avec les cousins de ses enfants, et ça a été une rupture très, très violente au sein de la famille. Ce n'est pas seulement une histoire de vie privée. Évidemment, ça pouvait avoir des conséquences graves, et il a mis tout en œuvre, à la fois tout son charme, toute sa séduction et toute sa stratégie industrielle pour ramener ses enfants dans son giron, faire en sorte qu'ils rentrent dans le groupe et qu'ils soient capables de lui succéder, surtout deux d'entre eux, Yannick et Cyril Bolloré.
C'est un peu pareil pour Bernard Arnault à la tête du groupe de luxe LVMH. Il a 5 enfants et récemment, il a fait voter par ses actionnaires une modification des statuts pour qu'il reste directeur général jusqu'à 80 ans au moins. C'est oui, alors ne pas choisir d'héritier, rester jusqu'au bout pour être sûr de maintenir le groupe en bonne santé jusqu'au
alors
bout.
Alors, il y a deux raisons. C'est d'abord se croire immortel. Il y a un certain nombre, ce qui nous a frappé, un certain nombre de grands patrons comme ça qui ne se voient pas du tout vieillir, qui d'ailleurs s'entretiennent extrêmement bien, qui sont très suivis par des médecins, par des diététiciens, par du sport, qui font très très attention à leur santé et qui pensent être centenaires. Donc du coup, forcément, à 75 ans, il se dit bah, pourquoi pas faire 10 de plus, je suis très en forme et tout va bien. Dans le cas de la famille Arnault, c'est aussi parce qu'il n'a pas choisi pour l'instant entre ses 5 enfants. C'est une fratrie un peu particulière, mais à l'image de très nombreuses fratries françaises, c'est une fratrie issue de 2 mariages, donc 2 enfants aînés d'un premier mariage et 3 plus jeunes d'un second mariage. Et quelque part, il les a mis tous à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y avait pas d'autre option possible. Hein. Chez les Arnault, on travaille pour le groupe et chez LVMH, on ne peut pas imaginer aller faire, je ne sais pas, de l'athlétisme ou jouer de la guitare. Bon, on travaille pour le groupe et il les teste un petit peu à la manière de chevaux de course. Hein. Il y a un côté, en même temps, il les forme, il les éduque, il leur donne tout ce qu'il faut pour...
Oui, une formation d'exception.
D'exception, dans laquelle il s'engage personnellement, ce qui est assez rare, hein, parce que dans tous les patrons qu'on a côtoyés, généralement, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'éducation de leurs enfants. Mais là, c'est comme s'ils étaient tous sur une ligne de départ dans un couloir et il observe lequel sera le meilleur pour lui succéder.
Bernard Arnault, on l'a dit, a préparé, prépare ses enfants à lui succéder, ce que n'a pas fait Jean-Luc Lagardère. C'est ce que Arnault Lagardère, d'ailleurs, vous a confié. Pourtant, c'est de là, jusqu'à la mort soudaine de Jean-Luc, qu'ils se sont aimés et ils ne se quittaient pas d'une semelle. C'est ce qu'on va voir dans ce document diffusé en 1976. C'est un long portrait de l'homme d'affaires Lagardère à qui tout réussit et qui avait accepté de laisser entrer les caméras du journal de TF1 chez lui dès le petit déjeuner.
Signe particulier, ne fume pas, ne boit pas, travaille. Dès le petit déjeuner auquel il convie toujours un proche collaborateur. Deux passions, son fils et son métier de meneur d'hommes. Une vie partagée entre 3 bureaux, à Vélizy et à l'Étoile pour la Matra, ainsi qu'à Europe 1 dont il est le vice-président.
Bon, chérie, allez, travaille bien. Hein, sûr ?
Oui, oui, sûr.
Au revoir, Arnaud. Bonne journée.
Merci. Bien.
Lagardère ici. Bon, vous me passerez alors là toutes les...
Je suis un homme d'action, un homme d'équipe qui anime, qui chauffe, qui met le charbon dans la machine.
Alors malgré les apparences où le père semble associer son fils à la gestion de l'entreprise, puisqu'il y a une réunion qui se déroule à la table du petit déjeuner, jamais il ne lui a dit « tu vas me succéder un jour ». C'est ce qu'il vous a confié. En revanche, ce qu'il ne vous a pas confié, c'est que peut-être que Jean-Claude Lagardère ne voulait tout simplement pas lui donner la succession.
C'est vrai que c'est l'exemple même d'une succession ratée. Et c'est d'ailleurs le contre-exemple que pratiquement tous les patrons ont à l'esprit. C'est un homme qui aimait son fils, bien sûr, mais qui s'aimait d'abord lui-même. Et c'est un père écrasant. Ça, c'est le premier écueil quand on veut transmettre son entreprise. Il a littéralement écrasé son fils, d'abord sous un déluge d'argent. C'est un problème,
évidemment. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres familles.
Ce qui n'est pas le cas dans d'autres
où
familles.
Où l'argent de poche était compté.
Exactement. Et puis, il l'a privé de sa mère. Dès l'âge de 11 ans, il a eu un divorce très conflictuel avec son ex-femme et il a réussi juridiquement à la priver d'une grande partie de ses droits de garde et donc il a privé son héritier d'une forme d'équilibre. C'est très important parce qu'encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, la succession réussie, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de psychologie. Et là, on a un héritier qui a presque une espèce de névrose oedipienne qui systématiquement, au fond, a détruit l'œuvre de son
père. Et ce que vous disiez aussi, c'est que ces sentiments, ces ressentiments peuvent avoir des conséquences industrielles. Bien sûr. Qu'on a vu donc avec Arnaud Lagardère qui a un peu dilapidé le groupe. Et vous, vous parlez de vengeance inconsciente contre son père.
Oui, on a l'impression qu'il y a une sorte de jubilation, alors il ne le dit pas évidemment comme ça, hein, mais à mettre en pièces tout l'héritage de son père. Et d'ailleurs, il a commencé par quelque chose de pas très anodin. La première chose qu'il a liquidée dans l'Empire Lagardère, qui était composé de l'armement, des médias, mais il avait également monté un haras de chevaux, de pur sang, un des plus beaux haras du monde, qu'il avait monté pour se venger de son ex-femme qui était partie avec un cavalier. Et la première chose que fait Arnaud Lagardère, quand, après la mort de son père, il vend le haras à l'Agacan, il vend les chevaux de son père à l'Agacan, comme si c'était un moyen de cautériser cette blessure familiale. Donc rien n'est anodin, même dans les achats ou les ventes. Après, il a vendu tous les pans entiers de l'Empire.
Vous l'avez peut-être entendu dernièrement, hein, puisque là, son groupe va être pris sous la domination de Vincent Bolloré, et il a dit clairement... J'espère que mon nom s'effacera au bénéfice d'un autre.
Il a dit, si mon nom s'efface, j'en serai heureux.
Oui, c'est une phrase incroyable. Incroyable. Tous les efforts de son père ont été justement d'apposer son nom sur ce groupe dont il ne possédait qu'une toute petite part du capital, puisqu'il l'avait en commandite.
Tout n'est pas qu'une question d'argent. Et le très bel exemple, c'est la fameuse guerre chez les Bettencourt. Vous expliquez, vous racontez, vous l'avez fait dans Le Monde, et on le retrouve dans ce livre passionnant, c'est qu'entre la mère Liliane et la fille Françoise, il faut remonter à l'enfance pour tout comprendre.
Oui, déjà, Liliane, c'était une femme qui n'avait pas eu déjà une enfance. C'est un niveau de richesse où souvent on ne s'occupe pas des enfants. L'éducation des enfants est déléguée à des nounous, à des majordomes, avec un niveau en effet de luxe et d'argent considérable. Mais il y a eu, alors dans la petite enfance, c'est la fille unique, hein, Françoise, de Liliane, et il y a eu très vite une sorte de détachement, de désintérêt. Ouais. Elle disait qu'elle s'ennuyait avec sa fille, elle trouvait sa fille barbante. Bon, ça peut arriver, je ne sais pas. Et en tout cas, ça a créé évidemment une scission. Et quelque part, elle s'est choisie un enfant de substitution à la personne
François-Marie Bannier,
qui a été condamné par la justice, un espèce de fils de substitution qui l'amusait beaucoup plus que sa fille, évidemment. Sa fille en a pris ombrage et on peut le comprendre.
Alors il y a eu on parle beaucoup de grandes familles dont les noms sont presque devenus des noms communs. Il y a une famille moins connue comme la famille Muliez qui possède pourtant beaucoup de choses entre Auchan, Décathlon et plein d'autres. Et eux au contraire, faire corps, c'est vraiment le secret de la réussite de la succession.
C'est-à-dire qu'au départ, eux, ils ont un problème plus compliqué que les autres, c'est qu'ils sont nombreux. Et quand vous êtes très nombreux, évidemment, ça multiplie les menaces pour votre groupe. Et donc, ils ont établi un système, effectivement, une véritable organisation, d'ailleurs avec une discipline de fer, où la famille elle-même sélectionne les futurs dirigeants, règle éventuellement les problèmes privés de certains de ses membres. Et c'est comme ça qu'elle réussit à maintenir la solidité du groupe.
Succession, l'argent, le sang, les larmes, c'est passionnant. Ah oui. Il y a quand même un contre-exemple total d'un homme qui se fiche de savoir ce que deviendra son groupe, c'est Jérôme Sédoux, à la tête du groupe Pathé. Il dit « Après moi le déluge, je veux mourir sur scène, donc je resterai le patron jusqu'au bout. Et puis, que deviendra Pathé dans 10 ans, c'est pas mon problème. »
Oui, et puis surtout, il élimine tous ceux qu'il forme pour lui succéder.
Il élimine personne, il n'imagine personne à sa hauteur.
Oui, c'est du darwinisme aussi... appliqué à l'héritage et à la succession.
Il forme des gens jusqu'au sommet.
Il forme une mégalomanie, peut-être.
Darwinisme, oui.
Ah ben je crois que c'est le mot que vous utilisez, le darwinisme de Jérôme Sédoux.
C'est en tout cas, il n'imagine personne à sa hauteur. Et effectivement, tant pis si son groupe, plus tard, est vendu.
C'est passionnant. Je crois ça sort demain chez Albin Michel. Et c'est signé Raphaël Baquet, Vanessa Schlener. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, le combat d'un jeune homme contre les règlements de compte à Marseille.
Oui, il s'appelle Amine Kessassi, il a 18 ans, il habite la cité des Frévalons dans les quartiers nord de Marseille. Au pied des barres d'immeubles règnent les trafiquants de drogue. Son frère, Brahim, 22 ans, était l'un d'entre eux jusqu'au 29 septembre 2020.
J'ai perdu mon grand frère dans un homicide. Il a été assassiné avec un ami à lui. Ils ont tous les deux été retrouvés dans le coffre d'une voiture, tous les deux calcinés. C'était celui qui me protégeait, celui qui me défendait. Donc pour moi, c'était impensable. Mais les premières pensées, ça a été premièrement à sa fille d'abord, parce qu'il a une fille de 2 ans. Et puis de voir ma mère s'effondrer comme ça, de voir ma famille brisée.
En 2021, 25 personnes ont été abattues à Marseille. Nous en sommes déjà à 30 sur les 9 premiers mois de 2022. Et il y a eu 3 morts pendant le seul week-end dernier.
Règlement de compte dans les quartiers nord de Marseille. On a encore eu deux cette semaine.
Des habitants du quartier de Noailles à Marseille se sont rassemblés ce matin pour dénoncer l'insécurité grandissante.
Nous sommes à deux pas du centre-ville de Marseille. La rafale de Kalachnikov n'aura laissé aucune chance à ces deux hommes.
Les personnes qui sont tuées ont souvent entre 20 et 30 ans.
À ce rythme, 2022 pourrait être une année noire.
Au moment de son assassinat, le frère d'Amine voulait arrêter le trafic. Il venait d'avoir un enfant et de trouver un contrat d'intérim. C'est en sa mémoire qu'Amine a fondé l'association Conscience qui vise à améliorer les conditions de vie dans les quartiers défavorisés et à aider les plus jeunes à prendre en main leur destin. Et si son visage vous dit quelque chose, c'est parce que ce message, il l'a transmis directement à Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle. Le président était venu présenter son plan pour la ville, Marseille en grand.
Maintenant, il faut exiger des entreprises qu'elles recrutent des jeunes des quartiers, que même s'ils n'ont pas de qualification, parce que justement, on n'a pas eu la chance d'aller dans de grandes écoles, bah, qu'ils peuvent nous former, les entreprises, que la formation continue, ça existe, et que peut-être ma génération, ceux qui ont 18 ans, 20 ans et plus, c'est un peu trop tard, mais on peut s'occuper des jeunes qui sont encore dans les collèges, des jeunes qui entrent à peine dans les écoles, et qu'il y a tout ça à faire, et je pense que vraiment, main dans la main, il faut arrêter ce clivage.
Un an après, Amine est bien sûr fier d'avoir pu échanger avec le président de la République, mais depuis, les choses ne se sont guère améliorées dans le quartier et il continue à espérer beaucoup plus des services publics.
Lui expliquer à Emmanuel Macron, c'est juste de lui dire que ce n'est pas une fatalité ce qui nous arrive, mais que s'il veut vraiment changer les choses et que si c'est sa volonté de changer les choses, qu'il ne va pas pouvoir faire sans nous. Après, je veux dire, depuis, il y a encore eu des homicides, depuis, il y a encore des familles qui sont brisées et les choses n'avancent pas réellement. Donc, avant de dire si je suis satisfait du plan Marseille en grand ou si c'est ce qu'il nous fallait, il va falloir encore mener de grandes actions et faire en sorte que ces familles qui sont brisées tous les jours à Marseille, bah, que ça cesse.
Avec son association, Amine multiplie les actions concrètes, inciter les jeunes majeurs à s'inscrire sur les listes électorales, réclamer que les écoles préviennent immédiatement les parents en cas d'absentéisme, faciliter les relations entre les jeunes et la police de proximité, sa grande fierté, voir certains d'entre eux trouver leur voie et échapper à la tentation de l'argent facile et du marché de la drogue.
On fait des actions concrètes, où on a trouvé par exemple un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Satis, c'est un sous-traitant pour Airbus et ils ont recruté 15 jeunes, donc nous on a choisi 15 jeunes qui sont dans des réseaux, étant donné que c'est un sous-traitant pour Airbus, il fallait qu'il n'ait pas de casier judiciaire, et ces 15 jeunes-là aujourd'hui, bah, ils ont tous fait une formation de 8 mois dans l'aéronautique, et il y en a 13 qui ont signé un CDD et qui aujourd'hui bah, ont une situation, ils ont un appartement, et moi c'est une fierté d'aller chez ces jeunes, de voir leur appartement et de me dire que bah, du dispositif qu'on a porté, bah, aujourd'hui ces jeunes ils sont sortis des quartiers, et ça montre qu'avec de la volonté, de l'accompagnement, on peut les aider à sortir de tout ça.
Raphaël Baquet, vous avez travaillé, vous avez publié des longues enquêtes sur Trappe, notamment, c'est des quartiers qui sont similaires.
Oui, alors Marseille, c'est lié évidemment à la présence du port, à la pauvreté de la ville aussi. Le marché de la drogue, il règne depuis longtemps, on va dire, hein, déjà dans les années 70, simplement il change de main en fonction des époques, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de se débarrasser de cette véritable plaie qui pèse sur l'économie et sur la société de cette ville.
Moi, ce que j'ai trouvé terrible, c'est cette phrase du jeune Emmanuel Macron qui dit pour moi, j'ai 19-20 ans, c'est trop tard, mais pour les plus jeunes, et c'est terrible ce genre de phrase, parce qu'on se dit s'il y a 19-20 ans, on pense que c'est déjà trop tard, ça raconte tout, quoi. Ça raconte le manque de confiance qu'on a en l'avenir, aux possibilités de l'État d'apporter de l'aide et de sortir de situations comme ça, très, très figées, dramatiquement figées.
Merci beaucoup Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, on commence tout de suite avec les suites de l'affaire Bayou.
Oui, bien sûr, avec l'avocate de son ex-compagne qui prend la parole. On va y venir, Julien Bayou, poussé à la démission de la tête d'Europe Écologie Les Verts après les révélations de Sandrine Rousseau sur notre plateau. Je n'y reviens pas, c'était un peu plus de deux semaines. Et hier soir, c'est aussi sur notre plateau que Julien Bayou a répondu aux accusations floues, à nos questions et à Sandrine Rousseau.
Elle ne me dit pas qu'elle a reçu mon ex-compagne. Elle m'a dit « j'ai mené ma petite enquête ». On en pense ce qu'on veut. Elle me dit, ne me revient que des faits non répréhensibles. Je suis dans une situation, c'est Kafka, voilà. On m'accuse de faits qui ne sont pas répréhensibles, des accusations pour lesquelles je suis immédiatement jugé coupable. Pour autant, on ne me les présente pas et je ne peux pas m'en défendre. J'ai été mis en cause par mon ex-compagne début juillet. J'ai demandé 4 fois à être auditionné par cette cellule. Par cette cellule
interne
d'Europe Écologie Les Verts.
Au parti.
Je suis innocent de faits dont je ne peux me défendre, qui ne me sont pas présentés.
Ce matin, très tôt, l'avocate de l'ex-compagne de Julien Bayou a déconstruit la défense de l'ancien patron des Verts.
Quiconque a été soumis à une enquête interne dans une entreprise, dans une association, dans un syndicat, sait que c'est toujours comme ça. Le contradictoire, contrairement à ce qu'on peut entendre, n'est que minimal. Il y a des anonymisations et tout ça s'est fait. Pourquoi ? C'est fait justement pour préserver la parole à l'intérieur, pour éviter les pressions. Donc comme il n'a pas les informations qu'il souhaiterait, il se répand dans les médias au mépris de ce qu'a demandé expressément son ex-compagne, pour former une forme de pression médiatique et essayer d'emporter le morceau. Mais ça ne marche pas comme ça, il fera comme tout le monde.
Affaire à suivre, donc, toujours ambiance chez Europe Ecologie les Verts, en l'occurrence, alors que les travaux ont repris à l'Assemblée, vous le disiez hier, et qu'on a vu les deux s'éviter, s'ignorer dans les couloirs et sur les bancs.
La guerre en Ukraine et la Russie qui semblent reconnaître ces difficultés.
Alors ce matin, Vladimir Poutine a officialisé l'annexion des territoires ukrainiens. Il a apposé sa signature devant son gouvernement et les députés russes. Mais dans le même temps, les choses sont plus compliquées que prévu pour Moscou. Cet homme que vous allez voir à présent, c'est Igor Konashenko, un porte-parole russe qui, tous les jours, en fait, se gargarise des pertes de l'adversaire. Combien d'armes, combien de véhicules détruits. Mais sur la carte d'hier, on voit bien, j'écris, on le voit pas bien, parce qu'on comprend pas bien leur carte forcément, mais on voit que les Russes ont perdu du terrain, 40 km sur la zone de Kherson, idem dans la région de Kharkiv. Et ces derniers mois, on a beaucoup vu les commentateurs russes fustiger l'Occident, très fier, très va-t-en-guerre. Et désormais, écoutez, lisez et regardez, en fait, les visages, on mesure que le ton a changé.
Сериал смотрим, где можно взять, промотать или посмотреть, чем там закончится, какая серия. Это реальная жизнь. В этой реальной жизни мне бы очень хотелось, чтобы мы завтра атаковали и взяли Киев. Но я понимаю, что те 300 тысяч, которые проходят частичную мобилизацию, требуется время. Требуется время для их подготовки, для боевого слаживания, для того, чтобы у них было все, что необходимо для того, чтобы пойти в бой. А это значит, что некоторое время нам будет нелегко.
Dans le même temps, les pays qui soutiennent l'Ukraine se posent la question de l'accueil des déserteurs. La France, par la voix de la secrétaire d'État en charge des affaires européennes, a répondu ce matin, ce sera du cas par cas. La Russie qui perd du terrain, et côté ukrainien, on leur promet le pire, dans la voix même du président Volodymyr Zelensky.
До чего дошло? Мы вынуждены начать информационную работу по донесению до граждан России, которых мобилизируют сейчас, особого тезиса. Делайте хотя бы татуировку с вашим именем и фамилией, чтобы мы знали, как найти ваших родных, когда вас убьют.
Et si on retourne côté russe de la frontière, vous vous souvenez sûrement de Marina Ovsiannikova, cette journaliste qui avait brandi une pancarte contre la guerre en plein direct. Dans l'attente d'un procès, elle était assignée à résidence jusqu'au 9 octobre. Et regardez cette vidéo qu'elle vient de publier sur la messagerie Telegram.
Уважаемые сотрудники ФСИН, наденьте такой браслет на Путина. Это его, а не меня, нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России.
Dans le message suivant, elle explique se libérer d'elle-même de son assignation à résidence. Elle se dit innocente. Pour être précis, elle est accusée d'avoir propagé de fausses informations sur l'armée russe.
Deux images encore qui ont retenu votre attention sur le conflit.
Chacun ses amis. D'abord, du côté de Vladimir Poutine. On a appris cette semaine que le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a été promu au grade de colonel général par le président russe lui-même. Il affirme, Kadyrov, envoyer trois de ses fils à la guerre, trois adolescents de 14 à 16 ans, trois parmi ses 14 enfants. Une autre image, cette image de réunion dans le bureau même de Kadyrov où les internautes ont remarqué un objet à l'arrière-plan, un sac de frappe en réalité pour amateurs de boxe, amateurs éclairés hein, en réalité puisqu'il s'agit d'un objet dessiné à l'origine par Karl Lagerfeld dans son temps de marque Louis Vuitton, un ensemble gants plus sac de frappe à plus de 175 000 $, il n'en existe que 25 exemplaires dans le monde. Volodymyr Zelensky, lui, se fait d'autres amis. Sur Twitter, on le voit ici en conversation visio avec Mark Hamill. Mark Hamill, c'est Luke Skywalker de la saga Star Wars qu'il a nommé ambassadeur de l'armée des drones. Référence à la plateforme de collecte de dons pour l'Ukraine. Référence très claire à Star Wars aussi. Mark Hamill, lui, partage cette affiche, très belle affiche, qui reprend les codes oppresseurs contre résistants, faisant des Ukrainiens les rebelles, et de Vladimir Poutine, Dark Vador.
He did reference the movies, and it's not hard to understand why. I mean, Star Wars was always a fairy tale for children, and fairy tales are morality tales of good versus evil, where good is clearly defined, evil is clearly defined, and it's not hard to extrapolate an evil empire with Russia invading a sovereign nation.
On quitte les vaisseaux spatiaux pour les trains corail.
Ah, j'exagère un peu, je vous l'accorde. Les TGV sont aussi concernés par la vente qu'organisait la SNCF. 9 millions de billets vendus entre 6h et 8h du matin. Sauf que la SNCF a été victime de son succès. Ce sont les mots de la compagnie. La grande vente a connu des bugs et certains usagers ont même dû se déplacer au guichet pour essayer d'avoir des billets.
Je souhaitais réserver des billets qui, soi-disant, seront directs entre Nantes et les Alpes. Donc, je viens de faire une demi-heure à pied pour me rendre en gare en espérant avoir une réponse à mes questions.
Ah oui, ça part très vite. J'ai vu là qu'il y a déjà des réservations complètes, quoi.
Ça va être pris d'assaut, quoi. Alors après, est-ce qu'il y aura des places, les prix vont monter, je sais pas.
Surtout les prix qui peuvent augmenter aussi avec les fêtes de fin d'année. Donc, voilà, c'est mieux de s'y prendre à l'avance.
Sauf qu'en réalité, même à la Fédération des usagers des transports, on est conciliant. Certes, c'est en kikinant quand le site plante, mais il remarche après. Et finalement...
Ah oui, c'est bien.
Franchement, la Fédération des usagers de transports en général...
C'est comme les clignotants belges, ça marche pas.
Vous savez quoi, je vais vous demander ce que vous pensez de la réaction de la Fédération des usagers de transports en sortie de ce magnéto.
La SNCF a vendu beaucoup de billets, l'équivalent du nombre de places de 3 TGV chaque minute entre 8h du matin et 10h du matin. Donc c'est pratiquement, ils ont vendu l'équivalent de 300 TGV. Donc c'est considérable. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent prendre le train, comme cet été. Il y a une appétence pour le train très forte, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le climat, c'est bon pour ne pas trop consommer d'essence, c'est aussi bon pour l'accidentologie en voiture. Il faut que la SNCF augmente l'offre. Il n'y a que comme ça qu'on pèsera sur les prix. On risque là à Noël d'avoir encore besoin de plus de trains. Il faut dire au gouvernement qu'elle donne les moyens à la SNCF pour avoir plus de trains.
30 billets par seconde, 3 TGV toutes les minutes, dit la SNCF. Vous m'accorderez qu'on les a entendus plus en colère, là.
Non, mais le problème, c'est que ça plante tout le temps, tous les jours, pour tout le monde. C'est que ce site ne marche pas bien.
La nouvelle appli, bien sûr.
Il ne marche toujours pas bien.
Et qu'il n'est pas clair du tout.
Et donc, vous disiez que ce serait intéressant de s'interroger sur le fournisseur.
Ah oui, comment la SNCF gère le problème avec son fournisseur, parce que c'est un coup de lui demander beaucoup d'indemnité quand même.
Mais voilà, exactement, pour compenser la hausse des prix de l'énergie, hein, qui va peut-être se répercuter sur les prix des billets. Je vais y arriver. Et ben c'est pas moi, mais le prix Nobel de chimie.
En fait, personne m'a rien demandé, mais c'est devenu un défi personnel, Babette, vous expliquer le soir quel prix et pourquoi. Alors le prix Nobel de chimie a été remis aux Danois Morten Meldal, aux Américains Caroline Bertozzi et Barry Sharpless. Ce dernier, Barry Sharpless, entre dans un club très fermé. Vous allez le voir, ceux qui ont reçu 2 prix Nobel. Ils sont 5 au total et vous avez reconnu Marie Curie, bien sûr, sur ce tableau. Barry Sharpless, ce dernier, pour avoir développé ce qu'on appelle, enfin ce que les scientifiques éclairés appellent la chimie clique.
Allez donc, Mathieu, qu'est-ce que c'est que la chimie clique ?
C'est pas sorcier, Bertrand. C'est une nouvelle forme de combinaison de molécules. Une réaction chimique, en réalité, qui va en servir d'autres. Je vais essayer de prendre un exemple simple et concret en santé. Si vous avez une molécule et que vous voulez qu'elle aille quelque part, un principe actif vers un organe malade par exemple, il faut lui dire et la guider. Vous pouvez lui adjoindre une autre molécule qui va l'emmener, on aurait dû prendre celle-là plutôt,
qui va aller lui dire quelque part.
Parfois on parle de molécules reporters, enfin les scientifiques parlent, moi jamais. On s'en sert pour marquer des molécules aussi, pour les rendre visibles une fois qu'on les a envoyées ailleurs. La chimie clique, c'est aussi simple que ça, c'est juste le couplage parce qu'on imagine que ça fait...
Mais c'est super,
un peu plus de 20 ans après son invention.
C'est pas sorti, ça méritait vraiment un prix Nobel.
Et merci.
Et surtout l'explication du clic.
Ah bah oui, bravo. C'est vrai qu'on sait un peu ce que c'est qu'un clic. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Vanessa Schneider, Raphaël Baquet. Je rappelle que Succession, l'argent, le sang et les larmes, ça regroupe votre série d'été qui était passionnante. Et c'est aujourd'hui ou demain chez Albin Michel ? On ne sait pas.
C'est dans toutes les librairies. C'est déjà dans les librairies.
C'est déjà dans les librairies. Et c'est ce soir sur C'est à vous. Dans un instant, Stéphane Bern, Philippe Bouvard, L'œil de Pierre, Le Vu et les actualités de Bertrand. On vous attend. A tout de suite.